sur Radio Génération 33.
Retrouvez l'interview d'un club girondin.
Place au direct sur RG33. Le sport en live.
Bonsoir tout le monde.
Quel plaisir de se retrouver sur l'antenne de Radio Génération 33. Club de sport, on va expliquer un petit peu à ceux qui nous écoutent. C'est du hand, c'est du hand du côté du SPUC, parce que c'est un petit peu compliqué, parce qu'il y a l'USAP, il y a le SPUC, voilà, il y a plusieurs OMS. C'est le SPUC. Le hand prend... Mais je dirais de l'ampleur dans le paysage pessaquais. Petit à petit, c'est en train d'émerger. C'est tant mieux parce que ça a le mérite d'avoir du travail derrière. Parce que bon, quand ça commence à prendre de l'ampleur, c'est qu'il y a du gros travail derrière. Il y a du taf, comme on le dit. Il y a des gens qui s'investissent et c'est ce qui donne le fruit de ce succès. Tout d'abord, on va expliquer un petit peu le handball du côté du SPUC. C'est beaucoup de licenciés.
Ça va être 420 licenciés environ cette saison. On était à 390 les saisons précédentes, en plafonnant un peu et en étant malheureusement obligé de refuser beaucoup de monde et en particulier des enfants.
Ça, c'est dur ça.
Ouais, on se rend compte qu'on n'est pas suffisamment doté en équipement sur la métropole pour pouvoir accueillir toutes les familles et les enfants qui veulent faire du handball. Cette année, on a eu la chance, grâce à l'apport de créneaux d'entraînement supplémentaires, de pouvoir ouvrir deux équipes supplémentaires par rapport à la saison dernière, une troisième équipe senior féminine, et surtout quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur, d'ouvrir l'école de handball petit, c'est-à-dire les enfants de moins de 7 ans, grâce à l'apport d'un nouveau créneau le samedi matin. Donc, ce qui nous permet de passer au-dessus de 400 licenciés cette année, alors que les saisons précédentes, on s'est forcé de ne pas y passer parce que ça devenait trop compliqué à gérer.
Oui, là, on rentre dans une optique auquel il y a quand même pas mal de travail derrière. On a parlé d'enfants de moins de 7 ans. Aujourd'hui, je dirais, comme dans tous les sports, il y a des règles. Ces règles-là, au niveau de l'âge, est-ce que le hand en a une auquel il y a un âge charnière à ne pas dépasser ?
En termes de pour commencer le handball. Alors aujourd'hui, la Fédération française de handball a développé des offres de pratique pour les plus petits. Donc il y a du baby hand qui peut commencer à 3 ans, que nous on ne pratique pas à Pessac. L'école de handball qui commence donc à 5 ans, pour les 5-6 ans. Donc c'est la section qu'on a créée cette année. L'école de handball grand, les moins de 9 ans, donc pour les 6-7 ans, 8 ans. Et après on passe dans les catégories plus classiques, moins de 11, moins de 13, moins de 15, moins de 18, avant d'arriver en senior.
Plusieurs équipes de même catégorie.
Alors, on a en effet... la pratique des plus petits se fait en mixte. Donc les moins de 7 ans, les moins de 9 ans, ça correspond en fait à 3-4 équipes, parce que c'est ça évolue sur des petits formats. Et donc là, c'est mixte. Et après, à de moins de 11 à senior, donc c'est des catégories qui sont unisexes. Et on a à Pessac, de moins de 11 à moins de 18, donc moins de 11, moins de 13, moins de 15, moins de 18, deux équipes par catégorie de garçons. Et en filles, on n'a qu'une équipe par catégorie de filles de moins de 11 à moins de 18. Et après, on a trois équipes seniors garçons et trois équipes seniors filles, donc comme je disais tout à l'heure. Et en complément, en bonus, on a une équipe de handball loisir, donc qui est du handball mixte aussi, donc compétitif, qui se pratique en semaine avec là de 16 à nos limites en termes d'âge et en mixité aussi. Donc en fait, aujourd'hui, on a 18 équipes compétitives au club qui évoluent en championnat tous les week-ends.
Oui.
Et donc ces équipes loisirs et les équipes école de handball qui n'ont pas de compétition de classement en finale, ce qui fait un total de 23 équipes si je ne m'abuse.
C'est pas mal. Ceux qui veulent suivre les péripéties de toutes ces équipes, en partant de la plus petite jusqu'à au plus haut, sur votre site, je trouve que c'est super bien fait. Voilà, il y a juste un diaporama qui se déroule avec tous les résultats du club. Je trouve ça génial. C'est super bien fait, voilà, ça permet de pouvoir se renseigner.
Ouais, c'est un site qu'on a recréé cette saison. On avait un site qui était un peu vieillissant en termes de technologie, qu'on avait un peu plus de mal à maintenir. Là, on s'appuie sur une offre en fait, d'un fournisseur. Hein. C'est quelque chose qu'on n'a pas designé totalement et ça amène des fonctionnalités pratiques et pour le visiteur du site et pour nous, club, parce que c'est un site qui a l'avantage d'avoir un back-office pour ceux qui connaissent un peu, c'est-à-dire avoir une gestion derrière qui permet au club de gérer les licenciés, de gérer la communication, de gérer les réunions, de gérer les planifications des matchs et de gérer les bénévoles, la planification aussi des bénévoles sur ces matchs-là, sur l'organisation des week-ends. Donc,
bien
c'est
sûr.
Un site qui a deux volets. Un volet on va dire, en face de l'utilisateur qui, avec la capacité de fournir le maximum d'informations, et un volet un peu plus pour le club lui-même, pour sa gestion du quotidien.
Ouais, il est très bien fait. Évidemment, vous avez lorsque vous arrivez sur ce site-là, toutes les informations pratiques à découvrir. On a parlé tout à l'heure d'équipes féminines un petit peu moins. Est-ce que il est difficile de recruter, ou tout simplement recruter, peut-être pas forcément le mot, mais tout simplement de la demande féminine en handball?
Alors, on est dans la moyenne de ce qui se fait au niveau national, c'est-à-dire qu'on est, nous, en termes de licenciés, à un gros tiers de féminines et deux tiers de garçons. C'est la moyenne. Aujourd'hui, c'est en train de changer avec les résultats de l'équipe de France féminine aussi, qui était jusqu'à hier championne du monde et championne d'Europe en titre. Donc elle n'est plus que championne d'Europe en titre, vu que le championnat du monde s'est terminé hier.
C'est ça.
Et donc ça monte un petit peu. C'est un sport qui développe la mixité. C'est un sport qui est accessible aux filles dès le plus jeune âge. Et voilà. Donc aujourd'hui, nous, on a pour objectif de pouvoir accueillir plus de jeunes filles, en particulier chez les jeunes, hein, donc de pouvoir aligner un peu le fonctionnement qu'on a avec les garçons, c'est-à-dire de pouvoir doubler les équipes par catégorie, de façon à pouvoir faire en même temps, j'allais dire, du qualitatif et du quantitatif, c'est-à-dire de pouvoir répondre à la demande de pratique chez les jeunes, de loisirs, de faire du sport le week-end, la semaine, dans des conditions sécurisées, avec des professionnels en encadrement, et aussi de pouvoir, nous, pour alimenter nos équipes Fagnon et orienter vers la compétition, de pouvoir faire peut-être un peu plus du qualitatif sur les jeunes filles, comme on le fait avec les garçons, qui souhaitent aller vers un niveau de pratique un peu supérieur et aller vers, enfin, prétendre à jouer à un niveau national ou régional. Donc notre objectif à moyen terme va être, et ça va commencer à se mettre en œuvre, je pense, dès la saison prochaine, de doubler ces catégories de jeunes, peut-être pas toutes d'un seul coup, mais on va commencer certainement par les plus petites, de façon à pouvoir répondre favorablement aux demandes et améliorer notre formation des jeunes pour pouvoir alimenter nos équipes Fagnon plus tard, hein, des années après. Voilà, donc c'est un, je ne sais pas si on terminera à 50-50 à la parité, mais en tout cas c'est quelque chose vers quoi on veut tendre.
Ouais, moi je sais que je m'y intéresse sacrément parce que dans tous les sports confondus, que ce soit le sport collectif et individuel, le sport féminin est en train d'émerger progressivement. Alors c'est vrai qu'il est mis un petit peu plus en lumière du côté de tous nos médias, ça contribue justement à faire véhiculer cette image de la féminine qui rivalise, on peut le dire, avec les hommes. Et ça, c'est chouette. Je suis issu plutôt d'un sport individuel, plutôt de la lutte. Et c'est vrai qu'on est au départ, on imagine bien les sports de combat gérés essentiellement par les garçons. Et justement, dans ces sports de combat, c'est en train d'émerger progressivement. Le sport co, idem, ça progresse de plus en plus. Moi, ce que j'aime bien chez les féminines, c'est ce côté hargneux, ce côté je veux en découdre. J'ai l'impression que la féminine a ce petit quelque chose de plus que les hommes. Je ne sais pas.
Oui, je pense qu'elles ont surtout, et contrairement à ce qu'on peut penser des fois, une alors dans le sport collectif, hein, une cohésion. En tout cas, nos filles à Pessac, elles ont une cohésion très très forte. Ouais. Et elles sont un peu moins peut-être mercenaires que certains garçons, et elles sont plus dans le plaisir de la pratique. Et le plaisir, ça passe au handball par le combat. Et si on arrive, voilà, je pense qu'on arrive à ça. Et il y a un enjeu important dans ce que vous disiez, c'est que aujourd'hui le sport féminin, c'est un enjeu sociétal. Aujourd'hui, c'est aussi pour ça qu'on en parle de plus en plus, c'est que les politiques et les fédérations ont mis en place des mesures pour développer le sport féminin, parce qu'on a un vrai enjeu sociétal qui est en particulier l'arrêt du sport pour les filles, pour les adolescentes. En fait, c'est un vrai problème, on le sait dans tous les sports. C'est que beaucoup, beaucoup de jeunes filles arrêtent le sport, la pratique sportive, à 15 ans, à 16 ans, à l'âge de l'adolescence. Et aujourd'hui, il y a des enjeux autour de ça. Et donc, ça veut dire aussi que l'offre sportive, et le handball en particulier, doit pouvoir répondre à des demandes qui sont un peu spécifiques d'une adolescente, peut-être d'une pratique un peu plus légère, la loisir, peut-être un peu moins compétitive pour certaines. Et donc, de pouvoir gérer le plaisir d'être ensemble avec la performance sportive. Aujourd'hui, on n'y arrive pas trop mal au handball en général et au speak handball en particulier.
Mais je suppose, parce que moi, je sais que quand je suis parti du monde associatif sportif, je sais que les certaines fédés, et dont la mienne, proposaient justement quelques aides via le sport féminin pour pouvoir essayer de le développer le plus possible. Alors, ça passait par des créneaux horaires supplémentaires, des subventions directement fédérales, pas beaucoup.
Non, mais si, il y a des incitations. Il y a eu des incitations, mais comme, ouais. comme il y a des incitations à faire du sport pour du public en situation de handicap, et c'est très bien parce que
bien sûr.
S'il n'y a pas ces incitations qui sont souvent économiques, hein, ou des aides structurelles, eh bien, peut-être qu'on a un peu peur de se lancer dans les structures associatives parce que malgré tout, nous ne sommes que des bénévoles. Et c'est vrai qu'il faut ces coups de pouce qui soient financés ou structurels, en tout cas cette communication sur le fait qu'il ne faut pas hésiter à aller vers ces pratiques-là. Et donc le sport féminin, c'en est un, le sport pour le public en situation de handicap, c'en est un autre. Le sport le sport santé aussi, pour les personnes un peu plus âgées ou en situation de santé précaire, c'est aussi des axes de développement qui aujourd'hui sont poussés par les politiques et les fédérations, sur lesquels, en fonction de nous, notre projet club et notre stratégie club, on avance ou on n'avance pas. Mais en tout cas, ça existe et on sait qu'on peut s'appuyer sur ces incitations-là.
C'est de bon augure. C'est
absolument,
de bon augure.
Absolument.
C'est de bon augure. Aujourd'hui, le SPUC PESAC, le SPUC AND, pardon, à quel niveau via la dernière équipe qui est la plus haute?
Alors, on a la chance d'avoir une équipe qui évolue en National 1 féminine, qui est la troisième division nationale, la deuxième division amatrice, parce qu'en fait, seule la première division féminine française est professionnelle aujourd'hui.
Oui.
Et donc, on est en National 1 depuis 6-7 ans maintenant.
Est-il facile, je dirais, de franchir le pas pour arriver, certainement un objectif du club, mais pour arriver à avoir une équipe qui joue dans le top 10 peut-être, parce que c'est à peu près ça qu'ils sont en féminine, top 10, voilà. Bon, est-ce qu'il est difficile? Qu'est-ce que c'est qui... Alors évidemment le jeu, ça passe par le jeu, par la qualité du jeu. Financièrement aussi, est-ce qu'on est dans une approche comme certains sports, sans les nommer bien entendu, qui a besoin de subventions, de plein de choses assez colossaux? Est-ce que c'est le cas?
Alors déjà, c'est pas facile de se maintenir en National 1. C'est-à-dire que déjà, quand je dis qu'on est au deuxième niveau amateur, voilà, le sport amateur, on sait aussi qu'il y a de l'argent, il y a de l'économie. Et donc aujourd'hui, ne serait-ce que pour se maintenir en National 1, avec les générations de joueuses qui arrivent, et avec l'ambition qu'ont tous les clubs, et c'est normal que tous les clubs aient l'ambition d'aller jouer au-dessus, voilà, déjà se maintenir en National 1, c'est déjà du travail financier, en termes de structuration et en termes de financier. Aller au-dessus, c'est du travail aussi, c'est du travail bien entendu en termes de recherche de fonds, hein, que ce soit de la subvention ou que ce soit du mécénat ou du partenariat sur des fonds privés. C'est aussi beaucoup de travail en termes de structuration, parce qu'accompagner une équipe qui progresse sportivement et qui évolue vers les niveaux supérieurs, ça veut dire être capable d'organiser des transports plus lointains, plus nombreux, d'ajouter potentiellement du volume d'entraînement hebdomadaire, donc d'avoir des créneaux, d'avoir des entraîneurs compétents qui aujourd'hui ne sont pas tous entièrement bénévoles, et en tout cas dont il faut aussi valoriser et le travail et la formation qu'ils ont mené ou qu'ils mènent pour entraîner à ce niveau-là. Donc jouer au-dessus, c'est accessible, heureusement, c'est le sport. Donc heureusement qu'on peut aller jouer au-dessus. Par contre, ça amène, ne serait-ce que l'idée d'y penser, ça amène la nécessité, l'absolue nécessité de se structurer au niveau associatif pour pouvoir supporter une gestion d'un budget supplémentaire, au-delà de trouver le budget.
C'est là où je voulais en venir.
Parce que un budget supplémentaire, on va dire, bon, on trouve un mécène, il nous donne un peu d'argent en plus.
Est-ce que le hand, justement, aujourd'hui, en 2019, est-ce que le hand a des appuis financiers, je dirais, par des partenariats bien précis, où il est difficile encore aujourd'hui d'accéder à justement à des partenaires qui puissent suivre, ne serait-ce, je dis bien, ne serait-ce qu'une saison? C'est déjà beaucoup.
Le handball, c'est un peu le parent pauvre des sports collectifs français, pas au niveau des résultats, mais au niveau de cette notoriété et de l'image commerciale qu'il peut véhiculer. Juste un exemple, pour parler du plus haut niveau, j'ai appris ce chiffre-là pas plus tard que vendredi soir dernier, les droits télé du championnat de France de première division garçon handball, c'est 4 millions d'euros par an. Les droits télé pour prendre un exemple de quelque chose qui, en termes de nombre de licenciés, et ressemble à peu près, les droits télé de la première division du basket, c'est 10 millions d'euros par an. Ah, je ne pense pas qu'il y ait une énorme différence en nombre de capacités de spectateurs à la télé. Aujourd'hui, il y a une capacité de notoriété. Donc, il y a des gens qui travaillent dans les ligues professionnelles de handball, que ce soit masculine ou féminine, à promouvoir le professionnalisme, etc. Aujourd'hui, on part un peu de loin. C'est vrai que le handball a encore un peu une image de sport scolaire, que tout le monde a pratiqué au collège ou au lycée. Et passer cette image vers une image de vecteur économique, de vecteur de communication. Voilà, c'est pas encore. En tout cas, c'est pas redescendu jusqu'au niveau auquel on pratique aujourd'hui, même si je pense qu'en Lille Star League, il y a des machines de guerre budgétaires, sans parler du PSG Handball qui est un ovni.
C'est autre chose. Voilà. C'est autre chose.
Mais voilà, c'est en train de changer doucement. Est-ce que c'est une bonne chose? La question est bonne à poser, tout le temps, parce qu'on sait. On a l'expérience d'autres sports à côté et on sait qu'il y a des dérives auxquelles il faut qu'on échappe. Je pense que c'est une bonne chose parce que la notoriété amène les licenciés et que tout ce qui peut amener des jeunes à faire du sport, quel que soit le sport, c'est bon. Mais il faut se préserver de dérives, de l'argent facile et de l'argent qui détruit un peu trop les valeurs. Donc fait aussi partie des choses à gérer dans une association, dans un club. C'est-à-dire que quand on projette de grandir, de grossir, d'augmenter notre budget, il faut qu'on soit très très vigilant à ce qu'on veut. Parce qu'au-delà d'être un club de sport, on est une association, donc on a un projet associatif.
En priorité.
Voilà. Donc qu'est-ce qu'on veut véhiculer comme valeur au sein de nos licenciés, à l'extérieur. Et donc tout, pour moi et pour nous aujourd'hui, pour l'ensemble des dirigeants du club, tout projet de développement, il intègre nécessairement le renforcement du projet associatif.
Et c'est là où ça devient un petit peu compliqué, parce qu'il y a, la symbiose qui doit se faire lorsque, le club a la chance d'avoir une équipe qui commence, à titiller un petit peu le haut du panier, et que on veut conserver cet état d'esprit et l'association d'un côté, et puis il y a le côté aspect évidemment qui est cruel, c'est l'aspect financier qui là devient très 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 cruel à ce moment-là, parce que sans ça le problème c'est que ça n'avancerait pas du tout. Donc c'est là qu'il faut trouver le bon tempo, entre guillemets. Donc c'est on a parlé là, on est en train de parler de ce qui est l'élite, donc je dirais de la compétition par elle-même. On parle souvent de loisirs, c'est en train pareil de prendre un élan un petit peu dans tous les sports, parce que le loisir devient de plus en plus intéressant, quel que soit le club. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il y a un petit quelque chose qui se fait du côté du hand à Pessac, avec cet esprit loisir uniquement?
Alors, donc c'était l'équipe loisir dont je parlais tout à l'heure. En fait, c'est une équipe qui existe depuis très 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 longtemps au club. Et en fait, c'est un peu le récipient pour les bénévoles, les dirigeants qui ne souhaitent plus pratiquer. C'était ça au départ.
Au départ.
Aujourd'hui, on a encore... ces anciens joueurs ou ces dirigeants dont je fais partie qui participent à cette section loisirs, mais on a de plus en plus de parents, de jeunes joueurs qui viennent s'essayer, qui n'avaient jamais joué au handball ou qui avaient joué un peu au lycée et qui viennent s'essayer. On a aussi, c'est un peu plus nouveau, beaucoup de néo-arrivants sur Bordeaux, étudiants ou qui démarrent leur carrière professionnelle. Et qui, plutôt que de prendre un abonnement dans une salle privée pour aller, pousser de la fonte, un peu tout seul avec son casque sur les oreilles, qui a fait du handball au lycée, au collège, et qui dit, bah, allez, je vais tenter le loisir.
C'est ça.
L'avantage, c'est que c'est des entraînements qui se font en semaine, et le match, les matchs, puisqu'on fait quand même des matchs contre les clubs voisins, se font aussi en semaine sur les créneaux d'entraînement, sur les heures d'entraînement. Ça veut dire que ça libère les week-ends
beaucoup
quand même.
Adapté.
C'est adapté. C'est d'un règlement particulier, donc il y a des matchs avec des scores, mais à la fin, sur la feuille de match, tout le monde a fait match nul. Et il y a deux règles qui sont pour moi très importantes dans le loisir, c'est l'obligation d'avoir trois filles sur le terrain en permanence, ce qui fait que ça équilibre un petit peu l'engagement physique et ça évite d'avoir des vieux garçons qui ont envie d'en découdre, et uniquement ça. Et après, il y a une règle qui n'est pas une règle, mais qui est une règle tacite, qui est que l'équipe qui reçoit, reçoit pas uniquement pour le match, mais reçoit aussi pour l'après-match. Et donc l'équipe qui reçoit prépare à manger
cette fameuse troisième
et un peu de liquide pour les deux équipes. C'est quelque chose qui est super sympa, qui marche très très bien en Gironde. Il y a d'autres formules qui existent dans d'autres ligues ou dans d'autres comités du handball où c'est du loisir exclusivement féminin, ou etc. Nous, c'est mixte. Et on est assez, enfin, à Pessac, et je pense tous les clubs de Gironde, on est assez attachés à ce que ça leur reste.
Oui, parce que ça paraît bien, et c'est vrai que quand on a quelque chose qui est adapté, on prend plaisir, et ça motive les troupes. c'est obligé, que c'est obligé. Autant de licenciés, une belle salle.
Très belle salle.
Toute jeune, un an et des broutilles, c'est ça?
Oui, oui, elle a été inaugurée officiellement début septembre de l'année dernière. Ouais. Avec, nous, on avait eu la chance de l'utiliser quelques mois avant, en dérogation un petit peu sur un week-end où on l'avait testé, entre guillemets, en organisant les finalités des championnats de France moins de 18 ans masculin, avec les meilleures équipes de France en moins de 18 ans, avec pour l'anecdote, hein, 4 clubs professionnels sur les demi-finales et les finales, donc avec des clubs comme Montpellier, comme Ivry, comme Istres et comme Tremblay, si je ne m'abuse. Et voilà, donc on avait pu la tester, et après, donc, on a eu la chance d'y voir du handball de très haut niveau le jour de l'inauguration avec un match entre l'US Ivry et Chambéry. Et le lendemain, avec un match un peu plus local avec les équipes de Billère et de Limoges qui évoluaient en D2 à l'époque. Et voilà, et depuis, on s'y installe progressivement. L'année dernière, on y a joué, enfin, nos équipes Fagnon, donc on a parlé des filles, mais il y a aussi les garçons qui, cette année, évoluent en National 3. Bon, l'année dernière, on y a joué quelques matchs de filles, 3 ou 4, si je ne m'abuse. Enfin, la saison dernière. Et donc, cette saison qui démarre, là, enfin, qui fait un peu plus que démarrer, mais qui a démarré en septembre, l'ensemble des matchs à domicile de nos équipes nationales, qu'elles soient féminines ou masculines, en N1 ou en N3 garçons, se déroule cette année à la salle Omnisports Belgrave, et on a la chance de pouvoir profiter de cet outil-là pour offrir à notre équipe et à l'équipe qu'on accueille et aux équipes qu'on accueille un confort de pratique énorme, et puis surtout un confort aussi pour l'ensemble des spectateurs, avec une vision du terrain, une sonorité, une sonorisation, un espace buvette restauration au top, ce qui permet à tout le monde de passer un bon moment quand ils viennent voir un match.
Très agréable, une salle très 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 agréable. On parle de cette salle en priorité, mais on peut parler aussi des autres, parce que vous ne vous entraînez pas que sur cette salle-là. Quels sont les autres lieux?
Alors, on s'entraîne majoritairement à la salle Roger Vincent 1. Donc, oui. Alors, Roger Vincent, du nom d'un ancien illustre handballeur pessaquais. Ouais. Donc on s'entraîne là-bas, c'est notre salle historique, en fait, hein, où on jouait tous nos matchs jusqu'à cette année. On s'entraîne là-bas majoritairement, c'est-à-dire qu'on a l'ensemble des créneaux non scolaires de cette salle, du lundi au vendredi de 17h45 à 22h ou 23h tous les soirs, on est là-bas. On a un petit peu encore quelques créneaux dans la salle Roger Vincent 2, qui est la salle à côté, qu'on partage avec le SPUC Roller. Et donc, depuis la saison dernière, on a des créneaux d'entraînement à la salle Belgrave aussi. Mais de façon, voilà, la majorité étant à Roger Vincent, avec un apport supplémentaire de Belgrave, c'est que Belgrave on a la chance que Belgrave ait été conçu pour pas uniquement pour faire venir du monde le week-end ou sur des événementiels ou sur des gros matchs, mais aussi pour la pratique en mode d'entraînement ou en mode scolaire. Oui. Donc d'avoir deux terrains de handball l'un côté de l'autre en configuration d'entraînement, ce qui fait qu'à chaque fois qu'on a un créneau, deux équipes peuvent s'entraîner en même temps.
Voilà, ça c'est le côté, je dirais, très pratique de la chose. Très pratique de la chose. Ces salles-là, bon, ça fait partie, je dirais, intégrante du SPUC Hand pour l'instant. En termes d'effectifs, je dirais, qui gère tous ces licenciés, parce qu'il faut quand même les gérer, tous ces licenciés. Il y a la partie bureau, bon, mais ça, comme toutes les associations, on est bien d'accord, le président, la trésorière, mais il y a aussi l'aspect bénévole. Est-ce que vous trouvez votre compte? Est-ce qu'à Pessac, notamment au Hand, il y a des gens qui sont là pour aider, justement, pour que cette pratique et pour que ce club soit dynamique?
Alors oui, avant de parler des bénévoles, en effet, il y a les bénévoles dirigeants. Donc on ne se contente pas d'avoir un bureau, on va dire, obligatoire de l'association de 1901 avec le président, le trésorier et le secrétaire. On a un conseil d'administration composé de 15 personnes aujourd'hui qui sont tous très très acteurs dans le quotidien du club et dans la gestion et dans la projection de son avenir. On a aussi, parce qu'on a atteint une taille un peu critique, on a depuis plus de 10 ans une secrétaire salariée qui est mutualisé avec l'Office municipal des sports, enfin l'Office des sports de la ville de Pessac maintenant. Et on a cette année un jeune salarié en alternance, enfin qui est en contrat de professionnalisation, qui est en train de passer son DEJEPS au CREPS de Talence. Et on a en plus la chance cette année d'avoir deux services civiques qui sont arrivés il y a 2 mois avec nous. Le bénévolat au SPUC Handball, c'est la plus grosse richesse du club. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les week-ends, on a besoin de mobiliser des bénévoles. Quand on organise des événements un peu plus gros, on a besoin de mobiliser des bénévoles, et on n'a jamais eu affaire à un manque de bénévoles, voire même à l'opposé, on a souvent dû faire des choix.
Stop.
Faire des choix parce que bon, derrière, ça devenait compliqué à gérer, et puis on avait trop de bénévoles par rapport au travail qu'il y avait à faire. Donc c'est la force numéro un du club, les bénévoles qui entraînent, les bénévoles qui arbitrent, les bénévoles qui organisent des matchs, les bénévoles qui font les repas des équipes, de toutes les équipes nationales qu'on accueille, qui font la kitchen à buvette, qui font cuire les frites et les hamburgers derrière la buvette pour vendre aux spectateurs. C'est là l'énorme richesse de ce club. C'est un club qui est réputé à juste titre familial. C'est un club où on reste. Moi, je suis dans ce club depuis l'âge de 14 ans. J'ai été joueur, j'ai été entraîneur, j'ai été dirigeant, et je suis aujourd'hui le représentant du conseil d'administration. Mais aujourd'hui, les générations d'après sont encore là. C'est-à-dire que voilà. Bon, aujourd'hui, l'anecdote, hein, au conseil d'administration du club, on est sur les 15 personnes dont je parlais. Je pense qu'on est 4 ou 5, peut-être 6, à être à peu près de la même génération, et on se connaît depuis qu'on a 14 ans et on s'est connus au club.
C'est génial. Voilà.
Donc il y en a qui sont entraîneurs, il y en a qui s'occupent de l'équipement, etc., etc. Mais en gros, c'est la force de ce club-là. Alors, vous disiez tout à l'heure que le club il commençait à avancer, il progressait. C'est un club qui a une grosse histoire, hein. C'est un club qui a 56 ans, qui a été champion de France en filles au début des années 70 de première division.
C'était la première division à l'époque.
Et qui a fait une illustre période en garçon au début des années 80 où ils avaient accédé à la première division aussi, un peu par miracle, mais c'était le miracle Pessaquet. Et les gens qui ont vécu cette époque-là sont toujours là. C'est-à-dire ils sont encore licenciés au club, ils sont moins acteurs au quotidien pour certains, mais en tout cas, ils sont toujours là et ils sont toujours un peu garants des valeurs et de leurs valeurs, enfin des valeurs que eux portaient il y a 40 ans qu'on essaie de porter toujours aujourd'hui en les remettant peut-être un peu au goût du jour. Mais,
Bien sûr. Ça, c'est chouette d'entendre des histoires comme ça. J'insiste toujours dans les interviews que je fais pour des clubs sportifs, parce que c'est vrai que malheureusement, les bénévoles, on en parle très peu, et pourtant, Dieu sait que ça fait avancer un club et ça donne l'âme du club, parce qu'il émerge de tout ça quelque chose qui fait que sans les bénévoles, on n'a pas d'âme, on peut pas avancer, parce qu'il faut dire ce qui est, on ne pourrait pas malgré tout, même en termes, si on a des finances, il y aurait des choses qu'on ne pourrait pas se passer, et on ne pourrait pas se passer. Et c'est vrai que très souvent je mets sur la table l'aspect bénévolat, parce que ces gens-là, ils sont dans l'ombre, mais ils font un travail merveilleux.
C'est la base, ce que je disais. C'est la plus grande richesse du club aujourd'hui, c'est ça. On a la chance, il est vrai aussi, d'être sur un territoire où les familles des enfants accompagnent leurs enfants. C'est pas le cas dans tous les clubs de handball, en fonction des quartiers, des endroits où se situe le club. Des fois, c'est plus difficile. Nous, on a cette chance-là d'avoir des parents qui accompagnent leurs enfants, qui sont présents et qui s'intéressent à la pratique de leurs enfants, sans rentrer trop dans les détails sportifs, parce que les entraîneurs entraînent et les joueurs jouent et les parents se taisent. Et je plaisante, mais par contre, qui sont prêts à donner de leur temps pour que le club de leur enfant, et pas uniquement leur enfant, le club de l'enfant, la structure de leur enfant, vive bien. Donc on a tous les ans, sur toutes nos équipes, des parents qui acceptent d'aller en formation pour tenir la table de marque, pour tenir le chronomètre, et qui ne se contentent pas d'être dans les tribunes pendant le match de leur enfant, mais qui vont à la table de marque, tenir la table de marque. Et voilà, et donc on fonctionne avec ça. C'est une vraie richesse, ça veut dire que ça permet aux dirigeants, ceux qui sont vraiment engagés officiellement avec un mandat de dirigeant, de se consacrer à des tâches un peu plus en arrière-plan ou un peu plus structurelles. Mm-hmm. Et aujourd'hui, le club, il fonctionne parce que les familles et ces bénévoles-là du quotidien, ils sont là. Sinon, on tirerait entre guillemets sur 10-15 personnes, c'est déjà beaucoup, mais qui s'épuiseraient beaucoup plus vite que s'épuisent aujourd'hui.
Ouais, tout à fait. Cette partie-là, au niveau bénévole, ça me fait rebondir un petit peu sur pas mal de sujets. Et c'est vrai que la vie associative, c'est dans un premier temps, c'est ça. Le hand aujourd'hui arrive à vivre correctement, que ça soit dans tous les sens du terme. Donc les bénévoles, j'ai compris, c'est le top. Et d'ailleurs, s'ils nous écoutent, un grand bonsoir à eux et merci de leur boulot, parce que quel que soit le bénévole qui œuvre dans n'importe quel club, bravo de votre travail. Et puis il y a l'aspect aussi financier, donc ça fait un bon quelque chose qui fait que ça a succès. Aujourd'hui, je voulais rebondir sur, on a parlé de formation, vous avez parlé de formation tout à l'heure, via les entraîneurs. Aujourd'hui, vous êtes avec toutes ces équipes, vous êtes à combien d'entraîneurs ?
Aujourd'hui, je crois qu'on est un peu plus de 30, entraîneurs qui interviennent à divers niveaux. Beaucoup de jeunes qui se lancent, c'est-à-dire qu'on a des jeunes néo-bacheliers souvent qui rentrent en fac de sport, et c'est un complément à la formation qui est quasiment demandé par l'université.
C'est pour ça que je rebondis sur l'aspect formation.
En gros, comment on fonctionne ? Aujourd'hui, on est lié à la Fédération Française de Handball. La Fédération Française de Handball, via sa ligue régionale et son comité départemental, propose des heures de formation, et de toute façon, on est engagé et obligé d'avoir des entraîneurs formés pour pouvoir prétendre à jouer à un certain niveau. Donc aujourd'hui, il y a ce qui s'appelle la CMCD, la contribution mutualisée au co-développement, qui en fait fixe des règles sur, pour évoluer à tel niveau, en telle catégorie, il faut avoir tant d'entraîneurs, il faut avoir tant d'équipes jeunes, d'accord, tant d'arbitres. Donc aujourd'hui, on a cette obligation. Alors ça, c'est une obligation fédérale qui nous permet de jouer à nos niveaux où on joue avec nos équipes adultes. Mais c'est un niveau indispensable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui...
C'est un petit peu, excusez-moi de vous couper, c'est un petit peu le concept d'une labellisation.
C'est ça.
Un petit peu.
En gros, c'est... on ne peut pas se contenter de dire d'une sportif. C'est-à-dire que le sport n'est pas que le match le week-end et les joueurs qu'on met sur le terrain. C'est aussi la formation des jeunes, la formation des arbitres, parce qu'il n'y a pas sans arbitre, il n'y a pas de sport. Et voire même la structuration en termes associatifs, donc avec des rôles à tenir, des budgets à tenir et des règles financières à respecter. Donc c'est un cadre qui nous oblige à rester dedans. Là-dessus, nous, on n'a pas de problème, mais il y a des clubs pour qui c'est plus difficile. Et surtout, de toute façon, aujourd'hui, il nous paraît impensable de mettre des enfants sous la responsabilité de quelqu'un qui n'a pas le bagage pour pouvoir le encadrer correctement. Alors en plus, c'est un enjeu fort puisque c'est une transformation qui est en train de se passer, je pense, dans tous les sports. C'est qu'aujourd'hui, on est quand même dans une société qui mute depuis un petit bout de temps, mais qui mute de plus en plus vers quand même de quelque chose d'un peu plus orienté consommation. Et aujourd'hui, on voit se transformer le monde associatif simple, en disant je suis adhérent à une association, l'entraîneur il conduit les enfants, machin, bon on sait pas trop s'il est bon, s'il est pas bon, mais en tout cas c'est sympa. Une asso. Ça se transforme quand même avec des familles qui sont de plus en plus exigeantes par rapport au contenu de ce qu'on amène, tant sportif que sur les valeurs humaines et sur l'éducation, la partie éducation qu'on fait en complément bien sûr à l'éducation des familles, l'éducation scolaire, mais on a un rôle éducatif dans un club, éduquer à la pratique sportive, éduquer au respect, au respect aux règles, et donc il faut avoir des gens formés. Donc aujourd'hui nous on a une logique de systématisation des formations pour nos entraîneurs, c'est-à-dire qu'on les laisse débuter une année sans diplôme, pendant laquelle on les tutorise, donc on a des tuteurs, des enfants diplômés qui les tutorisent, donc on ne laisse pas un entraîneur jeune sans diplôme tout seul avec l'enfant. Et après, on les accompagne. C'est-à-dire que la deuxième année, s'ils veulent continuer, on les inscrit en formation à la fédération, enfin au comité de Gironde. Et bien après, s'ils veulent continuer, ils passent les niveaux supérieurs et continuent à se former. Et au-delà de ça, donc avec l'apport de notre jeune en contrat de professionnalisation, lui est aussi en train de monter une école d'entraîneurs interne qui viendrait en complément de l'école fédérale pour justement structurer ce tutorat des plus jeunes, c'est-à-dire pour éviter que ce soit juste un tuteur et son disciple, mais que ça soit quelque chose d'un peu plus structuré, où potentiellement le jeune qui arrive chez nous pour entraîner puisse avoir affaire à plusieurs personnes, à une structure, à des contenus de formation prédéfinis, de façon à réellement bien l'accompagner. Donc c'est en train de se mettre en place, c'est un enjeu fort aussi parce que, comme je disais, je pense que c'est aussi une attente du public d'avoir de l'encadrement de qualité au-delà des valeurs de l'association, mais d'avoir aussi de l'encadrement de qualité sur le handball même, mais sur de l'éducation en général.
Il y a de la demande dans tous les sens. Est-ce qu'au niveau arbitrage, par exemple, il y a autant de demandes que de pouvoir encadrer, parce qu'on ne va pas forcément appeler entraîner, mais encadrer des enfants. Est-ce qu'il y a de la demande du côté arbitrage où ça pêche et on essaye de trouver ?
Alors, j'allais encore dire qu'on a trop de chance, mais ça va avec le reste. C'est-à-dire quand les parents s'investissent pour faire la table, eh bien, les enfants s'investissent pour faire l'arbitrage. Donc aujourd'hui, on est toujours dans cette logique où on a la chance d'avoir, et parce qu'on sait l'animer aussi, je pense, hein, c'est-à-dire qu'on a des gens qui animent l'école d'arbitrage, des dirigeants, avec des arbitres un peu plus confirmés qui viennent faire des suivis et qui viennent faire des formations sur les plus jeunes. Bien donc sûr. Aujourd'hui, on a peut-être même trop d'arbitres par rapport au nombre de matchs qu'on aurait arbitré pour les faire progresser.
Ouais.
Donc on travaille avec des clubs voisins qui ne sont pas dans la même situation que nous pour que nos jeunes arbitres puissent aller arbitrer dans les clubs voisins.
Forcément.
De façon à pouvoir avoir les matchs qui leur permettent de progresser. Parce que si on a trop d'arbitres et qu'on n'a pas assez de matchs à faire arbitrer, eh bien, ils ne s'arbitrent pas assez et donc ils ne progressent pas, voire ils se lassent. Donc aujourd'hui, on a un vrai, vrai, vrai problème de riche sur ce sujet-là, sur les jeunes arbitres, où en fait on a jusqu'à trop d'arbitres pour pouvoir arbitrer tous les matchs que le comité nous laisse arbitrer. En fait.
Je disais que le SPUC Hand était en pleine évolution, je ne me trompe pas du tout. Dans tous les cas, plein de bonnes choses. En tout cas, dans ce club émerge. Je vois qu'il y a un esprit comme je les aime. Parce que c'est ça qui fait avancer de toute façon, quoi qu'il en soit. J'en parlais justement la semaine dernière avec c'était avec la boxe, et on parlait de sport, d'olympisme et cette valeur là qui malheureusement, les valeurs de l'olympisme vient à diminuer progressivement. Et c'était juste pour dire que il y a les valeurs sportives par lui-même. Je crois que votre le slogan, c'est plus qu'un club.
Soyons plus qu'un club, c'est un petit jeu de mots avec les initiales de SPUC, hein, du Stade Pessac Union Club.
C'est ça.
On n'a pas volé au FC Barcelone, même si c'est un peu la même chose, mais on a francisé. Par contre, ce qui est important pour moi, c'est le soyons. C'est-à-dire que c'est toujours c'est pas parce qu'on l'est un jour qu'on va le rester.
Bien plus sûr. Qu'un club.
Donc en fait, nous, on s'efforce vraiment.
Se renouveler tout le temps.
On ne dit pas qu'on l'est, on dit qu'il faut qu'on le soit. Ouais. Et on peut penser, hein, sur certaines choses qu'on fait qui nous réussissent, qu'on l'est, en tout cas qu'on a réussi une fois à l'être. Par contre, ça doit être un credo permanent de toujours vouloir l'être. C'est la seule façon de le rester.
Bien sûr.
Donc sur ces aspects-là, on veut développer des choses au-delà du sport. C'est-à-dire qu'on a... On a un pouvoir en tant qu'association, on a un pouvoir et un devoir. On a 420 licenciés, c'est-à-dire qu'on touche 420 personnes, plus leur famille. Et aujourd'hui, avoir une entité qui véhicule des valeurs, des valeurs saines, mm-hmm. qui peut toucher 700, 800 personnes peut-être, c'est un pouvoir. Et donc ce pouvoir, on a le devoir de s'en servir pour faire des bonnes choses. Donc on fait beaucoup de choses au quotidien, mais on a voulu faire des choses un peu plus en dehors du club, ou en tout cas qui a... de faire rayonner un petit peu le club à l'extérieur de son entité propre. Donc ça a commencé au printemps dernier, où en fait on a répondu à un appel à projet de la ville de Pessac sur le développement durable, donc sur la partie, on va dire, impact écologique de notre pratique. Donc on a répondu à l'appel à projet et notre réponse a été choisie par le jury. Et donc on a terminé quasiment la suppression des plastiques à usage unique dans toutes nos pratiques au quotidien. L'incitation au covoiturage, enfin des choses.
Il y a beaucoup de choses qui sont faites. Voilà, ceux qui décident de liker un petit peu la page Facebook du Hand de SPUC, il n'y a pas de problème, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup d'initiatives qui sont faites et que je suppose qui marchent fort.
Oui, le week-end dernier, on l'avait fait. Donc, un nouveau concept là, qu'on a lancé, c'est les journées solidaires du club qui en fait sont développés par une dirigeante avec l'aide des services civiques et des licenciés, des joueurs et des joueuses, et en particulier des joueurs et des joueuses des équipes nationales. Donc on va faire a priori trois journées solidaires dans la saison. La première était samedi dernier, où c'était une journée autour du don. Donc on a invité trois associations à venir à Belgrave samedi après-midi. Donc le Secours Populaire, une association Anteranga qui fait la promotion du handball en Afrique, en particulier au Sénégal, et l'association Petit Prince qui s'occupe des enfants malades.
Ouais.
Et donc on a organisé la collecte de dons pour Anteranga et pour Secours Populaire, et l'ensemble des parents et des joueurs et des joueuses pour les plus âgés ont fait tout samedi matin une quantité impressionnante de crêpes, dont l'ensemble des ventes des produits des ventes a été reversé à l'association Petit Prince. Donc c'est des choses où on veut aussi faire profiter du volume de personnes qui peuvent être touchées par notre association.
Ouais, bien sûr.
Hein. En faire profiter des gens qui peut-être n'y sont pas, mais en tout cas voilà, ça ne coûte pas grand chose. Nous, ça crée de la cohésion à l'intérieur. On fait des choses qui parlent à tout le monde, qui ne sont pas juste aller jouer au handball ensemble ou s'entraîner ensemble. Les prochaines journées solidaires seront orientées sur d'autres thèmes, certainement l'écologie. Et voilà, ça va arriver au printemps, et on communiquera là-dessus sur le sur la page Facebook et sur le site internet.
Ouais, puis nous de notre côté, du côté de Radio Génération 33, nous ferons véhiculer bien entendu toutes ces informations. Monsieur Richoux, juste pour terminer, je voudrais savoir aujourd'hui, on en a plus ou moins donné la couleur, mais aujourd'hui, le SPUC AND à des projets, quels sont ces projets-là bien précis auxquels un projet qui seul ou accompagné, je ne sais pas, dites-moi tout.
Alors, on est des sportifs, donc on ne peut pas se contenter de ce qu'on a. donc on veut aller voir plus haut. Alors, on a une salle, qui, la salle d'agrand, on en a parlé tout à l'heure, qui en fait incite à être remplie, qui ne l'est pas. Qu'il n'était pas, qu'il est un petit peu sur cette saison où on a fait beaucoup d'efforts là-dessus et merci au public qui est venu nombreux. Et on a une volonté de la ville de Pessac de nous aider et de nos partenaires en général, mais de la ville de Pessac en particulier, de nous aider à essayer de remplir cette salle en y faisant du sport de plus haut niveau que celui auquel on joue aujourd'hui. Et donc on a initié un projet qui vise à aller plus haut avec notre équipe féminine. Mmh. C'est un projet qui, pour lequel donc, la mairie nous aide et sur lequel nous il va falloir qu'on... Enfin c'est un projet qui ne va pas toucher uniquement sportif parce que comme je disais tout à l'heure, hein, pour, quand vous m'avez posé la question, pour aller jouer au-dessus, il faut des structures, il faut structurer, il faut être un peu plus professionnel dans la structure de direction du club, dans certains métiers sur lesquels on n'est pas des experts, la communication, le partenariat, le marketing. Donc c'est des choses qu'il faut qu'on mette en place doucement. On se fait aider par un consultant externe qui a une très forte expérience de handball de haut niveau féminin. On avance. On est en train de poser des jalons sur ces bases de structuration, sur le sportif, sur l'administratif, sur le financier. On a des objectifs qui, dans nos têtes, sont assez clairs en termes de délai. Qui sont ambitieux, très ambitieux, mais et on y tient beaucoup, qui restent très raisonnables et surtout qui restent très respectueux de ce qu'est le SPUC handball et donc de ce qui doit être demain. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, le haut niveau c'est très bien, il faut se méfier de cet apport d'argent et du professionnalisme, il faut s'en méfier parce que ça peut
il y a des dérives,
hein. Abîmer certaines structures, il y a même certaines structures qui peuvent se retrouver détruites par des dérives d'accession à des niveaux qui nécessitent une structuration que peut-être elles n'avaient pas. Donc nous on est très très prudents et on pose les pierres les unes après les autres. Donc on en est aux fondations. On travaille en étroite collaboration avec la ville, avec nos partenaires, avec le consultant qui nous aide. On travaille sur le volet sportif, l'équipe d'encadrement, les joueuses, les qualités la qualité de leurs conditions d'entraînement, leurs conditions de match, de conditions de déplacement, tout ça c'est des volets importants, mais aussi sur la nécessité de se structurer en termes d'administratif, structurer notre formation, on en a parlé tout à l'heure, hein, la formation de nos entraîneurs, mais si on veut, ce projet féminin, il faut qu'on soit capable d'accueillir plus de jeunes filles, de les former plus qualitativement. Ouais. Donc il y a l'aspect formation, il y a l'aspect économique, il y a l'aspect partenariat, il y a l'aspect communication, il y a l'aspect structuration on va dire administrative du club et associative, et après il y a l'aspect purement joueuse encadrement qui de toute façon est très important mais qui de toute façon ne pourra pas être sans le reste qui sera posé avant. Donc on travaille, il y aura je pense dans les mois et les semaines à venir des annonces quant à la constitution de l'équipe l'année prochaine, qui pourront peut-être surprendre. On avance doucement, très prudemment, on a le soutien de la mairie là-dessus, on veut surtout pas se dénaturer, et c'est aussi pour moi très important, et pour le club très important, que dans l'année où on démarre ce projet, nos garçons remontent en National 3, parce qu'il est hors de question de sacrifier une filière pour en favoriser une. Donc notre objectif est d'aller voir plus haut en filles. Mais on ne change pas nos objectifs historiques en garçons, cet objectif qui est d'évoluer en National 3 ou en National 2, au mieux en National 2. Aujourd'hui, les garçons sont deuxièmes de la National 3 l'année de leur remontée, à un point du premier. On peut peut-être même imaginer une montée en fin de saison. On n'en est pas encore là, mais et ça sera. C'est pas parce qu'il y a un projet féminin que cette montée ne pourra pas se faire.
Et on va faire le direct parce que voilà ça marche. Ben oui, parce que de temps en temps, voilà, ça fatigue, c'est comme tout le monde. Donc sacré projet.
on va dire, sacré projet. On va tous croiser les doigts pour que ça aboutisse. Une question vient aussitôt à l'esprit. Pourquoi se baser sur les féminines ?
Alors, c'est un peu. Alors, d'abord parce que c'est l'équipe qui aujourd'hui est le plus proche d'accéder à un niveau
d'accéder,
plus haut.
D'accéder, oui, voilà, ça on est d'accord. Voilà.
Et puis parce qu'aujourd'hui, juste un exemple, hein, pour le budget médian d'un club d'un club professionnel en première division féminine, il est d'1,5 million. Le budget médian d'un club masculin, il est de 5 millions. Quoi. Donc il y a aussi il y a deux aspects. Il y a l'aspect sportivement, aujourd'hui on n'est pas le club le mieux placé au niveau des garçons en Gironde. Et on est clairement l'accession vers le monde professionnel chez les garçons est beaucoup beaucoup plus compliquée économiquement. Et beaucoup beaucoup plus compliqué aussi en termes de nécessité d'avoir un équipement. Clairement aujourd'hui pour jouer en Lidl Star League il faut une salle de 2500, 3000 places. Pour jouer au plus haut niveau féminin, je dirais que la salle Belgrave pourrait répondre à ce type de besoin. Quoi.
Oui, parce qu'il y a des chartes, voilà. Automatiquement voilà. qui prétendent manque, à avoir voilà. certaines choses.
Donc il manque des choses à la salle Belgrave pour pouvoir être homologué pour de la première division féminine, mais des choses qui sont futiles, enfin en tout cas qui sont gérables. Pour prétendre à aller affronter le PSG, Montpellier ou Nantes ou Aix en Lidl Star League, c'est tout autre chose. Donc voilà, je pense que c'est plus une position de opportuniste. Hein. Et puis aussi, c'est aussi rendre hommage et rendre la valeur à ce qui a été fait par l'équipe féminine de PESAC depuis des années, avec des joueuses qui étaient toutes entièrement bénévoles. Quand je dis entièrement, c'est entièrement, c'est-à-dire qu'elles payent leur licence. De temps en temps, on leur donne un survêt. voilà, elles évoluent en National 1 depuis très longtemps, avec des joueuses qui ont des familles, qui travaillent, qui viennent s'entraîner trois fois semaine de l'autre bout du département. Donc c'est aussi rendre hommage au travail qu'elles ont fait et ne pas gâcher ce travail-là, parce qu'aujourd'hui, dans les années qui viennent, quand elles vont petit à petit cesser cette activité parce qu'elles ont d'autres projets professionnels, familiaux, tout ce qu'elles ont construit avec leurs entraîneurs, ne s'effondre pas juste face à notre incapacité club à faire perdurer ce niveau-là, parce qu'aujourd'hui, ne serait-ce que pour évoluer en National 1, il faut plus de choses que ce qu'il en fallait il y a 4 ans ou il y a 5 ans.
Ça évolue.
Donc voilà, il y a aussi c'est peut-être vraiment la part la plus importante. Je pense qu'aujourd'hui, quand on a commencé à parler de ça avec la mairie de Pessac, enfin la ville de Pessac, il n'y a pas eu de débat. Enfin, la question s'est tout de suite mise sur les filles, parce qu'aujourd'hui, c'est notre équipe Fagnon.
C'est ça.
Et c'est une équipe qui véhicule énormément de valeurs et qui a su s'attirer la sympathie de beaucoup, beaucoup de monde. Et donc voilà, moi je pense que c'est une continuité à ce qu'elles ont fait. En tout cas, on travaille à ce que le projet soit une continuité à ce qu'elles ont fait. Parce qu'elles ont encore des choses à faire pour nous, enfin pour le club et pour elles aussi. Hein, parce qu'il y en a encore qui vont jouer, il y en a encore qui vont nous donner des coups de main. Il y en a qui nous donnent déjà beaucoup de coups de main. D'ailleurs, elles sont toutes bénévoles souvent sur toutes les manifestations. Donc voilà, pour moi c'est assez logique que ça soit le féminin. Au-delà des problématiques financières et des problématiques d'équipement, aujourd'hui, on ne peut pas dire que PESAC c'est un club féminin. On a dit tout à l'heure qu'il y avait un tiers de licenciés. C'est pas un club masculin non plus, même s'il y a deux tiers. C'est un club mixte, c'est un club de handball. Ouais. Et c'est juste cette équipe-là qui est notre équipe Fagnon et qui nous paraît opportun de ne pas, on va dire, de ne pas subir la fin d'activité des historiques et d'essayer d'accompagner, de continuer le travail qu'elles ont construit depuis des années.
Oui, tout à fait. Et alors, si je comprends bien, si vous arriviez à ces objectifs et que la ville d'à côté conserve, il y aurait un sacré derby.
On n'en est pas là. On est pas
non, je plaisante.
C'est vrai que la ville d'à côté, a de l'avance sur nous là-dessus.
Mérignac
évolue en première division, enfin en Ligue Butagaz aujourd'hui. Maintenant,
ça peut vous donner, vous de votre côté, ça peut, puisque quand on est voisin comme ça, on peut évoluer en regardant ce que fait l'autre pour voir justement ce qu'il ne faut pas faire ou ce qu'il faudrait faire.
Oui.
C'est une continuité.
Aussi, le CA Béglé qui est en deuxième division, donc qui est au-dessus de
nous.
Le Lyon Mios Biganos, qui est dans la même poule que nous. Donc il y a un territoire. Aujourd'hui, je dirais que, heureusement pour nous, malheureusement peut-être pour eux, nous on a la salle. Et que on a cette salle à Pessac, et que c'est une salle municipale, et qu'aujourd'hui c'est un atout. Et,
un bel atout, oui.
Et je pense que c'est aussi un impératif. C'est-à-dire pour prétendre à accéder à ces niveaux-là. On est vraiment très loin d'y être, mais pour ne serait-ce que l'imaginer, je pense que si on n'a pas la salle, c'est plus compliqué. Voilà,
cet outil-là va permettre d'être plus serein.
Oui, c'est un vecteur de. Voilà, ça nous apporte des perspectives. Et c'est aussi comme ça que l'idée a germé dans l'esprit, dans notre esprit, dans l'esprit de la ville. C'est que la salle est là, il faut la remplir, quoi. Et avec quoi on peut la remplir aujourd'hui, peut-être que. On a la chance d'avoir une équipe nationale et que quand on pense à du sport qui peut ramener du monde aujourd'hui, le handball est venu à l'esprit de la ville et c'est très bien pour nous et on est d'accord avec ça et on va essayer de répondre favorablement à cette demande et de répondre, d'y arriver. Quoi.
Voilà. J'en doute pas. Mais voilà, ici s'achève cette interview. Un grand, grand, grand merci, M. Richoud, de nous avoir accordé cette interview sur Radio Génération 33. Merci de votre gentillesse. On va, nous, de notre côté, essayer, et je dirais plus qu'essayer, on va suivre le club de hand le plus possible, faire véhiculer toujours ces informations. Et sachez que voilà, l'antenne, le lieu ou autre sera disponible quand vous le voulez. Ça sera avec grand plaisir de travailler ensemble puisque de toute façon le sport prédomine sur Radio Génération 33, on le sait très bien, et ça sera avec grand plaisir que on puisse continuer cette belle aventure et vous suivre dans ce beau projet. Quel beau projet.
Ouais, mais merci beaucoup pour votre invitation, pour plaisir. Avoir supporté mes discours, mes paroles que j'étais un peu bavard, mais merci beaucoup parce que c'est important. Alors d'abord, je vous remercie pour votre travail en général, parce que d'avoir de cette capacité de fournir un relais à des associations, un relais de communication à des associations localement, c'est hyper important. Et on s'est saisi un peu tardivement de cette opportunité, parce qu'on a eu quelques contacts ratés jusqu'à ce soir.
C'est ça.
Mais on est attaché à ça. Merci beaucoup pour tout le travail que vous faites. Et à très bientôt.
Avec grand, grand, grand plaisir. Et puis qu'on va croiser les doigts pour que tout ceci, bien entendu, fonctionne à merveille. Sur Radio Génération 33, c'est du direct, 19h52. On vous souhaite plein de bonnes choses et notamment une excellente soirée. On se retrouve dans quelques minutes, juste après la pause musicale, avec Jolane, peut-être même Raymond qui va intervenir pour le foot et pour l'excellent résultat des Girondins de Bordeaux. Excellent résultat, n'est-ce pas, Raymond? Et puis on vous souhaite plein de bonnes choses à l'écoute d'RG33. À tout de suite.